Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1,
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, ravi de prendre la route. Ensemble, on va aller observer et écouter la vie des autres ailleurs. Observer par exemple l'énorme fête qu'ont fait les Ivoiriens le week-end dernier. 24 heures de concert non-stop dans le stade d'Abidjan, de la musique, des danses. Beaucoup de pleurs aussi pour marquer l'enterrement du roi du coupé décalé, DJ Arafat, mort à moto 3 semaines plus tôt. Une star, une idole, un dieu pour certains. Un côté mauvais garçon aussi, bref, le personnage provoque l'hystérie, vous l'entendrez. On ira aussi en Pologne, à la frontière de l'enclave de Kaliningrad, ce petit territoire russe, enclavé entre deux pays de l'Union européenne, la Lituanie et la Pologne. Là-bas, on a toujours un peu peur d'une invasion des Russes, c'est étonnant. On prendra la mer également, avec les témoignages de deux femmes de caractère qui refusent l'indifférence face au sort des migrants en Méditerranée. L'une a côtoyé les vivants. Anne Chaon, journaliste à l'AFP, a passé presque tout son mois d'août sur le nouveau bateau de SOS Méditerranée. L'autre s'appelle Cristina Cataneo, médecin légiste italienne. Sa mission, à elle, c'est de redonner leurs noms et leurs identités aux morts, ces migrants qui se sont noyés. Nicolas Caro, lui, nous parlera du dernier roman de Jonathan Coe, L'Angleterre à l'heure du Brexit. Quant à Joseph, on l'appellera loin, loin, en Nouvelle-Calédonie. Les carnets sont ouverts, direction Abidjan.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
C'était il y a presque un mois, le 12 août dernier, le chanteur et musicien DJ Arafat se tuait dans un accident de moto sur un boulevard d'Abidjan. Il avait 33 ans et immédiatement la Côte d'Ivoire tout entière a plongé dans une période de deuil plus que mouvementée. Larmes, stupéfaction, mouvement de foule, rumeurs. DJ Arafat, c'était le roi du coupé décalé, une idole, une fierté pour ses très nombreux fans, un showman et l'une des personnalités les plus connues de la musique africaine. Pour ceux qui ne se rendraient pas bien compte, ses fans ivoiriens disent de lui qu'il était leur Michael Jackson ou leur Johnny. Bonjour François Hume.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant en Côte d'Ivoire. Je voulais qu'on prenne le temps avec vous de parler de ce phénomène DJ Arafat, des mesures du bonhomme, provocateur et mauvais garçon, des mesures de ses funérailles aussi, il y a 8 jours, qui se sont carrément terminées sur un acte d'hystérie collective, la profanation de sa tombe par ses fans.
Oui, samedi, il y a 8 jours, à la fin de la cérémonie d'inhumation, une foule de fans aux alentours du cimetière, agacés de ne pas pouvoir assister à l'enterrement réservé aux proches, commencent à hurler « Arafat n'est pas mort, il n'est pas mort ». Alors des dizaines d'entre eux se sont précipités vers le tombeau de l'artiste, forçant le cordon de sécurité. Ils ont ouvert le cercueil, déchiré la chemise de la dépouille, tout ça filmé par les téléphones portables. C'est lui, non, c'est pas lui, crient les fans hystériques. Certains pensent que DJ Arafat est toujours vivant, qu'il prépare son retour pour faire un énorme buzz, comme il en a le secret. Ils ont gobé les théories du complot les plus farfelues qui pullulent sur la toile depuis le décès du musicien. Il y a eu aussi ce pasteur illuminé à la recherche d'un moment de gloire qui a explosé le nombre de vues sur YouTube en promettant de pouvoir ressusciter le chanteur.
Bon, malgré cet incident, les obsèques de la star ont été un moment apparemment mémorable, quasi des obsèques nationales.
Ah oui, c'était tout comme. Près de 40 000 Chinois se sont rassemblés pendant près de 24 heures dans le stade Félix Houphouët-Boigny, dans le centre d'Abidjan.
Rappelez-nous, les Chinois, c'est qui?
C'est comme ça qu'on appelle ici les fans de DJ Arafat, tant ils sont nombreux. Alors à l'entrée du stade, un CRS tout sourire m'a demandé en plaisantant « Vous êtes chinois ? Alors c'est bon, vous pouvez y aller ». Dans les tribunes, les spectateurs ont dansé pendant des heures sur les tubes d'Arafat, 4 coups de bassin sur le côté et les bras en l'air. Presque tous portent un t-shirt à l'effigie du Daishikan, c'est l'un des multiples surnoms du chanteur. Sur les t-shirts, toutes sortes de slogans « Chinois forever »,« Chinois à vie »,« Dieu a donné, Dieu a repris ». Ceux qui sont torse nus ont le corps perlé de sueur à force de danser. Là, il est seulement 11h du matin et les fans sont déjà très très en forme.
Nous allons faire la fête jusqu'à le lendemain matin. Parce que Arafat pour nous est comme un idole. Il est comme un dieu d'Afrique, comme il a dit dans ses musiques. Donc nous allons le vénérer comme un dieu.
Je suis un Chinois. Vraiment, Arafat est tout pour moi. C'est ma vie. Vraiment, c'est ma vie. Donc pour moi, cet hommage-là, c'est encore petit pour lui.
C'est le Michael Jackson d'Afrique.
C'est un artiste influent en Côte d'Ivoire.
Le Daishi n'est pas mort. Le Daishi n'est pas mort. Il est sur notre planète.
Quelle ferveur, François.
Ouais, c'était vraiment un événement immense. L'État ivoirien a déboursé 230 000 euros pour l'occasion. Plus de 2000 policiers et gendarmes étaient mobilisés et 400 loubars, comme on appelle ici les agents de sécurité privés, qui eux aussi d'ailleurs ne pouvaient se retenir de danser. La jeunesse des quartiers de Yupougon et d'Abobo était largement représentée dans une ambiance folle, hein, avec 15 blocs d'enceinte audibles dans tout Abidjan qui crachaient en boucle les tubes de la star. Un peu à l'écart, j'ai rencontré le docteur Zadi, paré de toute la panoplie Arafat, de la tête aux pieds. Cet homme de 40 ans pleurait son idole.
C'était la désolation. C'est ma jeunesse. Quand j'ai 40 ans, Arafat a 33 ans. Et vraiment, il a tenu haut le flambeau. Il a hissé le niveau du coupé décalé, un haut niveau.
Vous pensez qu'après lui, le coupé décalé va continuer ou ça va être compliqué de prendre la relève?
C'est comme le reggae existe après Bob Marley. Et le coupé décalé existera. Mais personne ne fera comme lui. En fait, il est rentré dans le mythe. C'est une symphonie inachevée.
Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que personnellement, il est quoi une mauvaise image pour les jeunes?
Arafat, en moralité zéro. Au talent 20 sur 20. C'est ce contrat ça qui fait tout. C'est ce contrat ça qui crée aujourd'hui de l'émotion.
Alors toute la soirée, plus de 50 artistes ont défilé sur scène, des jeunes comme des stars reconnus dans le monde entier, Davido, Sidiki Diabaté, Ismaël Isaac. Quand l'un d'entre eux reprend un tube d'Arafat à l'harmonica, écoutez, le stade exulte. Dans les loges, je retrouve Mangourou Kanté, l'animateur vedette de DJ Arafat. Il explique avec des mots simples ce que représente le coupé décalé pour cette jeunesse ivoirienne qui pleure son idole.
Le coupé décalé, c'est un état d'esprit où on se force, on se dit dans la tête, je suis né pauvre, mais je ne dois pas mourir pauvre. Ok ? Et le coupé décalé aussi, c'est un état de style. La tenue vestimentaire, savoir s'habiller, savoir se comporter, savoir faire le malin, c'est ça le coupé décalé. On ne baisse pas les bras, mais on se donne toujours la force et la conviction de garder toujours espoir et d'aller de l'avant. C'est ça le coupé décalé.
Enfant de la balle, de parents musiciens et issu du quartier populaire de Yupougon à Abidjan, DJ Arafat s'est vite imposé comme le leader d'une jeunesse qui a soif de liberté. Et subtilement, il a fédéré son public en dépassant les carcans ethniques ou religieux dans une population divisée après la guerre.
Ça a dû intéresser les hommes politiques, j'imagine.
Complètement, avec en première ligne le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Il avait fait d'Arafat son protégé, son filleul. Le soir de la veillée artistique, le ministre s'est offert des tours de stade, montant même sur scène aux côtés de l'artiste malien Sidiki Diabaté.
C'était mon fils, c'est mon fils et je l'assume.
Une proximité que dénonce l'opposition et de nombreuses voix, Arafat et sa bande profitaient en effet de passe-droits, corrompaient la police et se plaçaient souvent au-dessus des lois. Quand la star a percuté la voiture d'une journaliste de Radio Côte d'Ivoire le 12 août dernier, il roulait sans casque, en pleine nuit, motocabré, à grande vitesse.
Ouais. Ça, c'était son côté mauvais garçon. Si j'ai bien compris, c'est très cohérent avec la philosophie du coupé décalé.
Absolument. Et dans le même esprit, Arafat était aussi coutumier des clashs. Il insultait tout le monde lors d'interminables lives Facebook, parfois incompréhensibles. Et ça ne plaisait pas à tout le monde. Écoutez par exemple cette jeune styliste que j'ai rencontrée. Pour elle, les colibés sexistes et homophobes de DJ Arafat, sa légère face aux violences conjugales, ont montré un terrible exemple à la jeunesse ivoirienne.
Mais il n'y avait rien de bon, en fait. Je sais que j'avais vu une vidéo en son temps où il avait été disputé avec sa petite amie, il avait cassé une assiette sur sa tête. Dans la foulée, il sort le titre Bankaka, qui était en fait, en gros, le truc du chicasse. Mais c'est bien drôle. Franchement, c'est bien drôle. Et c'était bien dansant. Mais vous voyez ce que je veux dire? Justement, parce que c'est bien dansant, parce que c'est bien drôle et tout ça, qu'est-ce qu'on véhicule? C'est ça le rôle des artistes, en vérité. C'est de véhiculer, en fait, certains messages et tout ça. Je ne demande pas qu'il soit quelqu'un qui donne des leçons ou quoi que ce soit. Mais un minimum.
Sur Facebook, un député a brisé le consensus national en affirmant que c'était l'irresponsabilité de la société ivoirienne qui avait tué l'artiste. Son poste est très partagé et nourrit la polémique aujourd'hui.
Alors, ironie de cette histoire foutraque et fantastique, le dernier album de DJ Arafat s'appelait Renaissance.
Oui, et son morceau phare, Moto Moto, le lieu de l'accident dans le quartier de Cocody-Engrais, est couvert de fleurs depuis le 12 août dernier. Le boulevard devrait même être renommé du nom de la star, DJ Arafat. La Côte d'Ivoire perd en tout cas un grand musicien, fauché dans la trentaine, un chanteur qui a définitivement marqué son empreinte sur la musique ivoirienne, et même au-delà, MHD, Maître Gims, VG Dream et son fameux Ramener la coupe à la maison, tous se sont directement inspirés de DJ Arafat.
Merci François pour ce décryptage depuis Abidjan. C'est vrai que nous ici, pas mal de choses nous avaient échappé sur ce phénomène et sur les raisons de sa démesure. À bientôt dans les carnets.
Merci, au revoir.
Et dans un instant, je vous emmène en Pologne. Quelques jours après les commémorations des 80 ans du début de la Seconde Guerre mondiale, on va observer un sentiment toujours bien présent chez les Polonais, c'est la peur des Russes.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h sur Europe 1 avec vous Sophie Larmoyer. Retour en Europe à présent, le long de la frontière Est. C'est en Pologne que nous allons maintenant, Sophie.
La Pologne avait préparé le tapis rouge le week-end dernier pour accueillir Donald Trump. Finalement, le président américain a fait faux bond à ses hôtes à cause de l'ouragan Dorian qui menaçait les côtes de Floride. Et c'est son vice-président Mike Pence qui a rejoint notamment Angela Merkel ou Édouard Philippe pour commémorer les 80 ans du début de la Seconde Guerre mondiale. Une quarantaine de délégations étrangères étaient présentes à Varsovie pour ces commémorations. Et une nation majeure était absente, la Russie. Vladimir Poutine n'était pas invité. Il faut dire que les relations diplomatiques sont quasi inexistantes entre les deux pays, officiellement à cause de l'annexion de la Crimée en 2014. Mais plus concrètement, la peur des Russes est toujours très présente dans l'esprit de beaucoup de Polonais. Vous allez l'entendre dans ce reportage de Fanny Bouko, correspondante en Pologne. Fanny s'est rendue à la frontière de Kaliningrad, cette enclave russe située au nord-est de la Pologne.
Nous sommes dans le corridor de Suwałki, un endroit considéré par l'Europe comme un point faible, vulnérable à une attaque russe. 104 km de frontière avec la Biélorussie et l'enclave russe de Kaliningrad. C'est sur ce territoire, fait de lacs et de forêts, que des jeunes en uniforme se sont arrêtés pour bivouaquer. Après 25 km de marche, hier, les jeunes recrues de l'organisation militaire polonaise ont le droit à une journée de repos. Leur commandant, Piotr Augustinowicz, historien et professeur de 39 ans, a créé cette brigade paramilitaire il y a 7 ans. Elle compte aujourd'hui 300 membres. On peut y venir dès l'âge de 13 ans, une sorte de scoutisme poussé assez loin avec marche militaire et maniement des armes à feu.
On s'entraîne à marcher au pas, comme à l'armée, et au tir dans un stand, même pour les plus jeunes. On leur apprend la connaissance du terrain, les courses d'orientation, ainsi que des techniques de survivalisme. Et enfin, l'éducation patriotique et civique. Ce nom de corridor de Suwałki ne nous fait pas particulièrement peur, mais on essaie de suivre cette maxime. Si tu veux vivre en paix, prépare-toi à la guerre.
Pas question pour le chef de dire que la Russie fait peur, mais dans la discussion autour du feu de camp, on comprend que le commandant reste quand même sur ses gardes.
Je suis étonné qu'il y ait encore des pays en Europe qui croient en la Russie, qui ont confiance en elle. C'est un pays qui n'a jamais tenu ses promesses, qui n'a jamais respecté les traités.
Après sa douche, Marta rejoint le groupe. Cette grande blonde tatouée de 22 ans est commandante de la brigade de Suwałki et paramilitaire depuis 5 ans.
Je pense que cette menace est exagérée parce que nous, habitants de Suwałki, on n'a pas peur de vivre dans ce corridor. Mais je serai capable de prendre les armes et de combattre.
Au cours de la soirée, le maire du village rend visite au groupe sur le camp. Voilà 6 ans qu'Arkadiusz Nowalski accueille ici ces jeunes paramilitaires, peut-être justement à cause de l'histoire de sa région.
Ici, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en juillet 1945, les soviétiques sont arrivés. Ils ont pris plusieurs centaines de milliers de personnes et ils les ont assassinés. On ne sait toujours pas aujourd'hui où sont leurs corps. Et dans nos familles, on a encore ce deuil.
Certains historiens estiment que près de 2 millions de personnes sont mortes ou ont fui cette région durant la Seconde Guerre mondiale. La mémoire du traumatisme est encore là. Après la nuit au camp, direction l'autre bout de la frontière, à Braniewo, petite ville de 18 000 habitants, on est à moins de 10 km de l'enclave russe de Kaliningrad, de son arsenal militaire de pointe, soldats et missiles longue portée. Teresa sort de la cathédrale, détruite presque entièrement par les nazis. Cela fait 46 ans qu'elle habite Braniewo.
Mes parents m'ont toujours dit qu'avec les Russes, il faut s'attendre à tout. Ils ont vécu les deux guerres mondiales et ils craignaient plus les Russes que les Allemands. Les Russes sont vraiment les plus imprévisibles, les plus dangereux. Je suis sûre à 99% qu'ils attaqueraient sur l'ordre de Poutine. Ce sont des gens qui lui sont très fidèles.
L'expression de cette angoisse, je la retrouve sur le parking d'un supermarché où Yann vient faire ses courses. La fidélité à Poutine, il l'observe tous les jours chez sa belle-sœur qui, elle, vit dans l'enclave de Kaliningrad.
Non, je ne parle pas de Vladimir Poutine avec elle. Elle en dit que du bien. Pour les Russes de l'enclave, c'est un bon père. Alors que pour moi, c'est un menteur et un voyou. Regardez ce qu'il a fait en 2014 en Crimée. Il a réussi à annexer cette région à la Russie. Ça fait très peur, bien sûr. On s'est rendu compte que même en Europe, Poutine pouvait attaquer à n'importe quel moment.
À côté de lui, près de sa voiture, Maria écoute. Elle, ce qui lui fait vraiment peur, ce sont plutôt les images diffusées par les médias polonais.
C'est vrai que quand on regarde la télévision, les informations, ça fait peur. Il peut toujours y avoir des incidents, des essais ou des explosions de missiles. On sait très bien qu'il y a toujours un risque et une possible réaction de l'armée.
Un peu plus loin, Emilia sort de la crèche. Cette jeune maman de 27 ans est née à Braniewo.
Nous sommes sur la ligne de front entre la Pologne et la Russie. Donc oui, en cas de mouvement des armées, on serait les premiers attaqués à Braniewo. Mais je pense que si jamais un conflit éclate aujourd'hui, ce ne seront certainement pas avec des véhicules militaires, des chars ou des soldats. Ce sera plutôt une guerre basée sur des sanctions, des embargos, probablement la bataille de l'information sur Internet, des cyberattaques.
Pour beaucoup de Polonais, l'entrée dans l'Union européenne en 2004 n'a pas atténué cette crainte envers Moscou. Ce qui les rassure, c'est leur adhésion à l'OTAN. 5000 soldats stationnent aujourd'hui dans le pays, principalement américains. L'échec Dziong, membre du conseil municipal, nous reçoit à la mairie.
On fait plus confiance à l'armée des États-Unis qu'aux armées des pays de l'Union européenne. Le problème avec les pays européens, c'est que le temps qu'ils se regroupent, négocient, réagissent, ça peut durer longtemps. Et Braniewo serait vite envahi. Notre passé dramatique et ce slogan « On ne va pas mourir pour Gdansk » sont toujours très présents dans la mémoire des Polonais.
Une phrase écrite juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale par un député socialiste français dans un journal. Pour certains Polonais, c'est toujours difficile de faire confiance aux pays qui n'ont pas bougé quand Hitler et son armée ont envahi la Pologne. À la frontière de Kaliningrad, en Pologne, Fanny Bouko, Europe 1.
Voilà, reportage sur cette méfiance des Polonais face aux voisins russes. Méfiance qui est bien réelle, hein. Depuis le 1er janvier 2017, les brigades paramilitaires qui en font la demande sont carrément intégrées à l'armée de la défense territoriale de Pologne. Elles reçoivent même de l'argent de l'État. Et puis, la Pologne compte beaucoup sur les troupes américaines présentes sur son sol dans le cadre de l'OTAN. Donald Trump a annoncé la venue prochaine de 1000 soldats supplémentaires. À suivre, cap à l'ouest, on traverse l'Europe, on traverse la Manche. Nicolas Caro vient nous parler du roman d'un grand auteur britannique. A tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Place à la littérature dans les carnets. Un livre dans le monde, c'est avec vous Sophie Larmoyer et le monsieur littérature d'Europe 1, Nicolas Caro. Il est 13h23.
Les écrivains savent mieux que d'autres souvent parler de leur pays, de leur culture. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Et c'est en Grande-Bretagne qu'on fait escale avec vous cette semaine. Avec, s'il vous plaît, le dernier roman de Jonathan Coe.
L'immense écrivain ouais. Jonathan Coe qui revient avec Le cœur de l'Angleterre chez Gallimard. Il est l'auteur de Bienvenue au club, de La femme de hasard ou de La vie très privée de Mr. Sim que j'adore.
Et alors, que raconte le dernier, Le cœur de l'Angleterre ?
Eh bien, tout est dans le titre. Jonathan Coe nous retrace par son roman, par ses personnages, ce n'est pas un essai bien sûr, il nous retrace les événements britanniques qui ont mené au Brexit. Ce faisant, on traverse la société britannique, la crise sociale et politique, on s'y mêle pour comprendre l'Angleterre et en fait le monde. Il avait déjà fait le coup pour l'ère Thatcher et il reprend donc les mêmes personnages. Ce sont entre autres les membres de la famille Trotter que l'on connaît donc déjà. Ils sont pratiques. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie de la classe moyenne. Ouais. Ils n'ont rien d'extraordinaire. Ce ne sont pas des puissants ou à l'inverse des gens dans la misère.
Et donc ce sont les mêmes personnages qui ont vieilli.
Ben oui. Benjamin et ses frères et sœurs ont la cinquantaine et le roman d'ailleurs s'ouvre tristement sur l'enterrement de la mère. La famille se retrouve et en regardant leur vie depuis 2011, on observe donc en même temps les déboires de l'Angleterre et c'est une fiction qui devient étonnamment réelle quand on la lit, y compris, ça n'a l'air de rien, mais y compris lorsqu'il décrit un lieu. Dans ce passage, par exemple, je trouve ça virtuose, on visualise immédiatement. Au cœur même des Midlands, il suivait à peu près le cours de la Severn et traversait ainsi les villes de Bridnorth, Alverley, Quait, Much Wenlock et Cressage, itinéraire paisible et sans rien de saillant, uniquement ponctué par des stations-service, des pubs et des jardineries, avec des panneaux patrimoniaux marrons qui trompaient la lassitude du voyageur en lui faisant miroiter des réserves naturelles, des gîtes historiques et des arboretums. C'est la force de Jonathan Coe, sa capacité à être en prise directe avec son temps. C'est aussi ce que pense sa traductrice, José Camoun.
Je crois que c'est un observateur aigu, sinon objectif, de la société contemporaine et du monde contemporain. Ce qui me frappe chez lui, c'est la façon dont il articule l'espace et le temps. Il est absolument fasciné par des lieux comme les Jardinland, les cafés Starbucks, les tours de Londres comme la Shard que l'on visite. Il est absolument en prise immédiate sur son temps et sur ce que ces lieux de notre société manifestent, de l'état de la société justement.
Au passage, José Camoun, qu'on vient d'entendre, est une très très grande traductrice. Mmh. Elle a retraduit récemment 1984 de George Orwell, ça vous donne un petit peu le niveau.
Ouais, vous avez parlé de politique, de Brexit, d'enterrement, c'est pas très drôle tout non. ça. Pourtant, Coe est plutôt drôle habituellement, non ?
Et oui, les deux vont ensemble. C'est d'ailleurs par ces événements tristes que naît l'humour à l'anglaise. Ne vous inquiétez pas Sophie, je peux vous dire que Coe n'a rien perdu de ce côté-là.
Il y a beaucoup d'humour, bien sûr. Et d'ailleurs, lorsqu'on a lu des extraits de son roman à Liège, au cours d'un festival, c'est un jeune comédien qui a lu une scène entre le jeune communicant et l'éditorialiste de gauche, bien pensante, donc Doug et Nigel. Quand il a lu cette scène, les spectateurs, les auditeurs étaient écroulés de rire. Donc ça montre bien effectivement que l'humour chez Coe, c'est quelque chose de primordial et qui d'ailleurs passe très bien en français la plupart du temps. Bien sûr, la vision du monde qu'il a est assez mélancolique au fond. Donc cet humour est à la fois le contrepoint et le contrepoids de sa mélancolie.
En même temps, dès qu'on parle d'un auteur anglais, on se doute qu'on sourira au moins un peu.
Bah ouais, et puis Jonathan Coe, c'est presque un archétype de ce qu'est être britannique, un peu malgré lui d'ailleurs, sans doute. C'est quelqu'un de très ouvert au monde, mais il est fait comme ça. Il est né en Angleterre et de l'Angleterre.
Il est d'une certaine façon au cœur de l'Angleterre, en étant à la fois natif des Midlands, d'origine des Midlands, et aussi et s'étant fait par les grandes universités anglaises, donc ayant vraiment assimilé dans son métabolisme toute la britannicité, oui, c'est tout à fait vrai, jusqu'à son accent qui est assez britannique.
Donc un observateur vraiment attentif. C'est un roman qui raconte un pays, c'est un petit peu le concept de votre chronique.
Ben
en
c'est
fait.
Ce que je me suis dit. Ben avec Coe, on visite vraiment la mentalité d'un pays et d'un peuple.
Le cœur de l'Angleterre, donc chez Gallimard, de Jonathan Coe. Merci beaucoup Nicolas, je vous dis à tout à l'heure. À la fin des carnets, vous venez nous raconter le programme de La Voix et Livre, votre émission.
Oui,
à tout à l'heure. Des bateaux de fortune, des hommes, des femmes et enfants qui y montent au risque d'y périr. Et tout de même, des Européens qui s'en inquiètent encore, sauveteurs, médecins, on file en Méditerranée.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h sur Europe 1 et avec vous Sophie Larmoyer. Il est 13h30, on va maintenant évoquer le sort de ces milliers de personnes qui tentent de traverser la Méditerranée. À la fois drame humain et dossier très politique pour l'Europe.
Le cap des 900 personnes mortes en Méditerranée a été franchi fin août pour cette année 2019 et c'est sans compter celles dont on ne sait pas qu'elles ont sombré, abandonnées à leur sort sur des embarcations de fortune. Les conditions de sauvetage des migrants au large des côtes libyennes se sont largement dégradées depuis un an sous l'impulsion de populistes comme Matteo Salvini en Italie qui ont mis la pression sur l'Europe pour qu'elle délègue de plus en plus le sort des migrants à des pays tiers comme la Turquie ou la Libye. Aujourd'hui, dans les carnets du monde, une femme nous rend visite qui connaît bien ces drames de la Méditerranée. Bonjour Christina Cattaneo.
Bonjour.
Vous êtes italienne et vous êtes médecin légiste.
Oui.
Vous dirigez un laboratoire à l'Université de Milan
oui.
qui travaille à identifier les morts anonymes, les cadavres sans nom. Alors ça peut être un sans-abri, une victime de la mafia, des ossements qui datent de l'Antiquité. Et puis vous vous êtes donc retrouvée confrontée à cette question, à ces corps de migrants noyés en Méditerranée, notamment après le pire naufrage qui a existé de ces dernières décennies dans cette mer-là. C'était le 18 avril 2015. Un chalutier égyptien conçu à l'origine pour un équipage de 30 personnes a coulé avec 800 à 1000 personnes à bord. 28 seulement ont survécu, ont pu être pêchés. La plupart sont restés en fait prisonniers de la coque. Et ce sont ces hommes et ces femmes à qui vous avez voulu, avec toute une équipe, toute votre équipe, redonner un nom en fait.
Oui, exactement. C'est quelque chose qu'on a commencé à penser en 2014, comme université avec un petit bureau du gouvernement italien, du commissaire pour les, ouais, pour les disparus. Et là, on a vu que personne ne faisait rien pour identifier des morts de la plus grande catastrophe depuis la Deuxième Guerre mondiale, d'un point de vue humanitaire. Donc, on a dit, si on court toujours comme légiste pour identifier les victimes des catastrophes, pourquoi on ne le fait pas dans ce cas-là ?
C'est vrai, quand il y a un avion qui tombe, effectivement, on court pour identifier les victimes. Oui. Alors, vous racontez votre cheminement et votre travail et cette opération en particulier dans un livre qui vient de paraître et qui s'appelle « Naufragés sans visage » chez Albin Michel. Il a fallu renflouer l'épave de ce barcone, hein, comme vous l'appelez, c'est-à-dire un grand bateau de 23 mètres de long. Ça a pris plus d'un an. Et alors, quand ce bateau est renfloué, vous sortez de cette carcasse de bateau, 528 corps et puis des ossements, sans doute, pensez-vous, les restes de 800 personnes. On ne conçoit même pas comment autant de personnes on peut tenir sur un bateau conçu pour 30 membres d'équipage.
On a vu ce qu'on n'a jamais vu en 30 ans d'expérience. Et la chose la plus frappante, c'était le ventre du bateau où il y avait une stratification de corps. La densité était 5 par mètre carré, presque 40 dans le ventre
dans la
du
cale.
Bateau. Dans la cale, exactement. Et là, tu comprends exactement, quand tu vois cette chose, le désespoir des gens, l'angoisse, et tous ceux qu'ils ont risqué pour s'échapper de la pauvreté ou la persécution. Donc, on comprend très bien, les morts dans cette occasion sont beaucoup plus éloquents des vivants.
Ouais, vous avez passé 2 mois et demi avec toute une équipe,
oui,
retirer les corps.
Oui, avec les pompiers, la marine militaire. Ouais. On était avec les pompiers à retirer les corps et surtout avec 80 volontaires des universités, des médecins légistes, des étudiants de médecine légale à travailler sur ça. C'était émouvant.
Alors, vous trouvez des fragments de leurs identités, finalement, à travers notamment des objets qui sont retrouvés sur ces personnes. Et c'est extrêmement émouvant, ces objets. Il y a par exemple des petits sacs de terre de leur pays natal cousus dans les vêtements.
Oui, on regarde très attentivement les vêtements parce qu'ils peuvent y être des documents qui peuvent nous indiquer au moins le pays d'origine. Mais surtout, avec les objets, tu comprends qui sont ces personnes. Ils sont exactement comme nos adolescents. Il y avait des bulletins scolaires cousus dans les vêtements. Il avait des petits sachets de terre de l'origine d'où il vient, des pays d'où il vient. Pour souvenir, il y avait des cartes pour la bibliothèque, des donneurs de sang. Donc, c'est très, très émouvant, oui.
Ça veut dire que ces personnes ne sont plus un numéro parmi 800, mais ce sont des lecteurs, des écoliers, des agriculteurs peut-être.
Oui, des donneurs de sang. Donc, ils sont comme nous et c'est pour ça qu'il faut utiliser cette histoire et ces objets pour faire rapprocher cette population à la nôtre parce qu'on voit qu'ils sont la même chose que nous.
Vous travaillez ensuite avec le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR,
oui,
pour finalement mettre en relation ce que vous avez découvert et puis eux, les dossiers de disparus qu'ils ont pour essayer de faire connecter les deux.
Oui, le CICR a un rôle très important. Il a un accord avec le gouvernement italien pour recueillir dans les pays d'origine, surtout il est très difficile de contacter les parents, les données antémortem parce que c'est fondamental pour identifier les morts, d'avoir les informations des parents de quand ils étaient vivants, comme l'ADN ou des photos. Il faut dire qu'ils ont déjà recueilli plus que 300 dossiers.
Sur les restes des 800 personnes que vous avez récupérées dans le barcone, dans ce bateau, aujourd'hui, vous avez réussi à en identifier combien aujourd'hui, 4 ans après le naufrage, 3 ans après avoir retrouvé
le
corps.
On est en train de travailler sur 2 grandes catastrophes. Le barcone, comme on disait, mais aussi celui du 3 octobre 2013. Et parmi les deux, on est arrivé jusqu'à 40. Identification, ça peut sembler un chiffre, c'est une chiffre très petite. Mais si vous pensez que le leitmotiv culturel était « ses parents ne les cherchent pas, donc ne cherchons même pas de les identifier » ou « bon, ils n'ont pas besoin, le deuil est différent dans ces pays ». Là, on a démontré avec ces 40 identifications, ces 40 certificats de décès, que c'est possible et qu'il doit être fait parce que c'est un droit des parents d'avoir ces morts identifiés.
Que c'est aussi important que pour n'importe qui d'autre. Oui. Christina Cataneo, je vous propose d'écouter le témoignage d'une journaliste de l'AFP, l'agence France-Presse, que j'ai rencontrée cette semaine. Anne Chaon a passé quasi tout le mois d'août à bord de l'Ocean Viking, Vous savez, c'est le successeur de l'Aquarius, ce bateau de SOS Méditerranée qui, en trois ans, a sauvé 30 000 personnes, secouru 30 000 personnes, avant de devoir rester à quai privé de pavillon. Donc là, c'était la première mission de l'Ocean Viking qui a pris la mer le 4 août. Le 9 août, premier sauvetage, et en quatre jours seulement, l'équipage trouve quatre bateaux. Pourtant, tout est plus dur qu'avant pour ces ONG qui viennent au secours des migrants en mer, à commencer par le repérage des embarcations. Écoutez Anne Chaon.
Très vite, les marins ont repéré un avion en fait, qui survolait la zone. Donc pour être très précis, on est au large des eaux libyennes. Le bateau est toujours resté dans les eaux internationales. Jamais ils sont rentrés dans les eaux libyennes, italiennes ou maltaises. C'est très important parce qu'ils sont régulièrement soupçonnés de violer les eaux territoriales. Et sur le radar de bord, ils ont repéré un avion qui faisait des cercles, qui jamais n'a cherché à rentrer en contact avec eux. C'est important parce que sur les quatre bateaux que SOS Méditerranée a secouru, aucun des quatre n'avait été identifié, ni par les centres de secours maritimes, aucun des avions européens qui, dans le cadre de l'opération Sophia, patrouille cette zone, n'a cherché à rentrer en contact avec l'Ocean Viking. Donc en fait, c'est deux fois parce qu'un vol a été repéré qui tournoyait et là, les sauveteurs ont lancé les Zodiac ultra rapides, les RIB à l'eau, et on fonçait dans la direction des avions. Pour le premier sauvetage, on est parti d'abord la veille au soir, vers 2h du matin, dans la nuit noire. On ne l'a pas trouvé. On est rentré à bord. Ils étaient très préoccupés parce qu'ils se disaient que, voilà, il y avait un risque d'arriver trop tard. Et le lendemain matin, de nouveau, le tournoiement de cet avion au-dessus de l'eau nous a menés très directement à ce premier bateau. C'était un bateau de 7 mètres, il y avait plus de 80 personnes à bord. Et les deux autres sur quatre, c'est la veille, à la jumelle. Il faut imaginer ce que c'est d'être sur la passerelle d'un bateau à peu près 15 mètres au-dessus de l'eau. Jumelle, c'est des bateaux qui sont au ras des flots, c'est des canots pneumatiques au ras des flots. Je vous assure qu'il faut vraiment avoir l'œil exercé.
Mais ça veut dire qu'il y a toutes les chances que beaucoup de ces bateaux ne soient jamais repérés, en fait. C'est ça que vous nous dites.
Les gardes-côtes libyens estiment qu'environ la moitié des bateaux qui partent de leur côte disparaissent, n'arrivent jamais. Il y en a un qui a éclaté devant nous. Le dernier, c'était un bateau de 12 mètres, bleu comme le bleu de votre logo. Des pièces de caoutchouc collées les unes aux autres. Les marins disent que c'est vraiment les pires. C'est bricolé par les passeurs. Ils sont arrivés, ils ont eu le temps de donner les gilets de sauvetage. Le bateau a éclaté. Il y a eu tout de suite 10 personnes jetées à l'eau. Et là, évidemment, il faut faire très vite et maintenir surtout bien le contrôle de la foule.
Voilà, en quatre jours, l'Ocean Viking a récupéré 356 personnes en perdition en mer, dont plus de 100 mineurs. Ceux-là sont vivants, in extremis pour certains. Et vous entendiez cette statistique des gardes-côtes libyens, hein, la moitié des bateaux qui quittent les côtes n'arrivent jamais. Ça fait beaucoup de personnes à identifier, ça, potentiellement.
Exactement, oui. Ça fait beaucoup de personnes à identifier, malheureusement. Oui.
On reste ensemble, Christina Cataneo, pour parler toujours de ces naufragés de la Méditerranée, ceux sans visage et à qui vous redonnez leurs identités par votre travail de légiste. Et puis, certains qui s'en sont sortis et qui, avec qui Anne Chaon a passé plusieurs semaines en mer sur le bateau de SOS Méditerranée. À tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Et bienvenue, si vous venez de nous rejoindre à l'instant sur Europe 1, 13h41. Dans les carnets du monde, nous évoquons pour le moment ces milliers de personnes qui tentent la traversée de la Méditerranée au péril de leur vie. Avec vous, Sophie Larmoyer, et avec votre invitée, Christina Cataneo.
Christina Cataneo, vous êtes médecin légiste italienne. Votre laboratoire est basé à Milan, mais vous avez passé plusieurs mois en Sicile pour identifier les corps de quelques 800 personnes retrouvées dans une épave à l'été 2016. Et puis d'autres donc qui avaient sombré déjà en 2013. C'est une expérience humaine extrêmement forte dont vous témoignez dans un livre édité par Albin Michel, « Naufragé sans visage ». Ce Barcone a été un bateau cercueil temporaire pour ses victimes avant qu'elles ne soient inhumées dans différents cimetières de Sicile. Je voudrais qu'on écoute à nouveau Anne Chaon, journaliste de l'AFP, qui a passé le mois d'août sur le bateau de l'ONG SOS Méditerranée, avec les marins, les sauveteurs, les équipes médicales de Médecins Sans Frontières. 356 personnes sauvées en 4 jours seulement dans la zone de recherche au large de la Libye. Ce qui l'a frappé d'abord, Anne Chaon, c'est cet immense sentiment de soulagement qui s'affichait sur les visages des rescapés qui montaient à bord de l'Ocean Viking.
En fait, en vivant avec eux, puisque personne ne voulait les débarquer, moi ça a été mon privilège de passer près de 15 jours avec eux, je me suis rendu compte que c'était en arrivant à bord du bateau la première fois depuis des mois, peut-être des années, qu'ils avaient un sentiment de sécurité. Certains, quand ils arrivent à bord, le fait d'être salués, vous voyez, traités avec humanité, ça les met presque au bord des larmes parce que ça fait peut-être des années qu'ils n'ont pas été traités autrement comme un animal.
Et là, on parle de ce qu'on appelle l'enfer libyen. Ils parlent tous de l'enfer libyen, de la manière dont ils sont traités en Libye.
Voilà. En fait, ils quittent leur pays pour différentes raisons, de violence ou économique. Mais enfin, après tout, est-ce que c'est honteux de vouloir vivre mieux et de permettre à sa famille de vivre décemment ? Ils arrivent en Libye pour travailler. Très peu d'entre eux ont l'Europe pour objectif quand ils partent de leur maison. Ils arrivent en Libye. La plupart m'ont dit le franchissement de la frontière, ça a été le début des ennuis. Ils sont arrêtés par des bandes armées, ils sont battus, torturés, violés. On filme ces mauvais traitements pour les envoyer à la famille afin d'obtenir une rançon. Quand la famille n'est pas en état de payer, eh bien, au bout de 6 mois, ils sont vendus comme esclaves. Et là commence une espèce d'itinérance, de mauvais traitements, d'abus. J'ai été traité comme un âne, j'ai été comme un chameau. En fait, c'est incroyable. D'eux-mêmes, ils prennent des images de traitements totalement déshumanisés. Et puis, ils se sont retrouvés rattrapés par la guerre quand même. La Libye est en guerre.
Voilà, témoignage édifiant d'Anne Chahan. Christina Cataneo, vous, en tant que médecin légiste, ces traces de maltraitance, vous les voyez aussi?
Oui, on les voit de plus en plus parce que le travail de médecin légiste, c'est aussi d'examiner les vivants, les gens qui demandent l'asile et ils ont besoin d'un examen physique pour voir les signes de la torture, de la maltraitance. Et de plus en plus, on les voit, surtout les gens qui ont été en Libye dans les prisons libyennes.
Oui, donc il n'y a pas d'affabulation, ça se
absolument
passe
absolument
vraiment.
Il y a les corps qui parlent très clair.
Les corps parlent. Des pays en guerre, c'est souvent le terrain du personnel médical de Médecins sans frontières qui est à bord de ce bateau. Parfois depuis très très longtemps, et ce qui a donné lieu sur l'Ocean Viking à cette incroyable scène de retrouvailles que nous raconte Anne Chahan. Écoutez.
En fait, c'est d'abord la sage-femme japonaise de MSF qui est venue me voir, Marina, en me disant « c'est incroyable, il y a un enfant du Sud-Soudan qui m'a reconnue ». Je lui dis « mais c'est fou, il faut que tu me le montres ». Et puis sur ce, MSF me dit « mais Mary Jo aussi, il y a deux enfants ». En fait, il y en a un qui avait 7 ans à l'époque. Abdourahman, qui l'a reconnue. Elle est très blonde. Ça fait plus de 25 ans qu'elle fait des missions extrêmement difficiles avec MSF. Et cet enfant, qui a maintenant 22 ans, lui a dit « Je te connais, tu étais au Darfour, dans mon village. » Et là, il était avec un jeune du même village qui, lui, avait 2 ans à l'époque. Donc, bien sûr, il m'a dit « Je ne me souviens pas de Mary Jo, mais ma mère m'a raconté l'histoire. » Cet enfant-là, à 2 ans, avait été blessé au mollet. La mère l'avait amené à Mary Jo. Et le gamin, tout de suite, a remonté son survêtement pour nous montrer la plaie. Et elle se souvenait extrêmement bien de l'histoire. Et le petit Abdourahman, elle m'a dit « Son père m'a sauvé la vie. » C'est le père d'Abdourahman qui est venu prévenir MSF qu'il fallait absolument qu'il parte se cacher dans la montagne, que les Janjaweed, ces cavaliers arabes, ces miliciens, arrivait et qu'il fallait qu'ils se mettent à l'abri. Et elle me dit, le lendemain matin, le père d'Abdourahman a été tué par les Janjaweed devant son fils. Elle me dit, j'ai jamais pu remercier cette communauté de m'avoir sauvé la vie. Et aujourd'hui, mon privilège, c'est de m'occuper d'eux à bord.
Voilà, Mary Jo, c'est l'infirmière de MSF qui est à bord de l'Ocean Viking. Alors, dans ses comptes rendus à bord, ses dépêches AFP, Anne Chahan décrivait des sentiments très forts et très mêlés aussi. De la joie pure, évidemment, quand les rescapés apprennent qu'ils vont pouvoir débarquer à Malte. Et puis de la colère aussi, face aux très grandes difficultés auxquelles doivent faire face aujourd'hui les ONG pour remplir leur mission.
Comment on peut accuser ces ONG d'être des passeurs, de faire du trafic, d'attirer les gens en mer, de se faire de l'argent? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les laisser couler? On parle d'humains, hein. Il y a des hommes, des femmes et des enfants. Le plus jeune avait 1 an. Alors on les laisse couler, on oublie que ce sont des humains.
Ou on les renvoie en Libye.
Ou on les renvoie en Libye, ce qui est absolument impossible pour ces ONG. C'est un pays en guerre, c'est un pays où les gens sont maltraités. L'Europe confie à la Libye le soin de faire le garde-chiourme de la rive sud de la Méditerranée, mais c'est inadmissible. L'Europe a fourni aux gardes-côtes libyens des vedettes pour aller récupérer les gens, les intercepter. Ce qui est leur pire cauchemar. Quand ils partent, ils préfèrent prendre le risque de mourir en mer que d'être interceptés par les Libyens et renvoyés. Même si malgré tout, ça leur sauve la vie. Ce sont des vedettes qui sont trop hautes. Les échelles sont peu praticables. Un homme m'a raconté, c'était sa 5e tentative de départ. Ils sont partis une fois, son 4e départ. Ils étaient 96. Quand les Libyens sont arrivés, ils ont perdu 50 personnes. Ils ont mis une échelle de corde. Les gens se sont précipités, c'était de nuit, l'échelle a cassé. Voilà, à l'arrivée, il y avait 50 personnes manquantes.
Ocean Viking a dû attendre près de 15 jours pour pouvoir débarquer ses 356 rescapés dans un port sûr, en l'occurrence Malte, avant qu'ils soient dispatchés sur 6 pays. C'est une attente que vous avez qualifiée d'interminable. Et l'un des sauveteurs vous a dit « plus il y a de noyés, moins il y a de migrants ».
Oui.
Et elle est terrible, cette phrase.
Elle est terrible et en plus, elle vient du leader de l'équipe, Tanguy, qui est un ancien pompier, un ancien militaire, qui me dit « moi, j'ai servi ma communauté, j'ai servi mon pays et je ne comprends pas ce qu'on ne comprend pas dans ma mission d'aujourd'hui ». Il dit c'est un constat que je fais. Je ne dis pas que c'est un calcul cynique de la part des gouvernants, mais c'est le résultat. Plus il y a de gens qui se noient, moins il y en a qui arrivent. Et puis, l'autre pendant de cette attente interminable, c'est que pendant qu'on fait des ronds dans l'eau entre Lampedusa et Malte, le bateau n'est pas dans la zone de secours. Donc, pendant qu'on était en attente, combien de bateaux ont disparu? En tout cas, dans un des bateaux, le dernier que nous avons secouru, immédiatement en arrivant à bord, les gens nous ont dit « un bateau identique est parti en même temps que nous ». Et lui, on n'en a jamais entendu parler. S'il était dans le même état que celui qui a éclaté.
Voilà, Christina Cattaneo, vous, en tant que médecin, vous êtes un peu en colère aussi. Hein. Vous dites que l'Europe, aujourd'hui, tolère ce que vous appelez des navires négriers.
Oui. Bon, je trouve que c'est un paradoxe qu'en 2015, on a une Europe qui parle de droits humains, de la protection des mineurs, et on a des bateaux qui ont des mineurs qui voyagent 5 par mètre carré et qui meurent comme ça. Donc, je suis aussi en colère parce qu'on doit rappeler qu'on identifie ces morts pour les vivants, pour ces parents qui cherchent, en tout cas, de savoir si le frère est vivant ou mort. Et il faut absolument que, pour augmenter ce chiffre de 40, cet effort devient institutionnalisé dans l'Europe.
C'est-à-dire que vous demandez que les institutions se saisissent de cette question de l'identification des victimes en Méditerranée.
Oui, absolument, oui.
Vous êtes en colère, mais vous êtes à la fois très fière de la solidarité dont votre pays a fait preuve. Oui. Et
l'Italie a vraiment...
Avec cette opération de grande envergure.
Absolument. Il y a eu une période presque magique où la marine militaire, le ministère de l'Interne et les universités ont embrassé cette tragédie.
Peut-être qu'on a laissé l'Italie un peu seule face à cette tragédie.
Peut-être que M. Salvini est arrivé
au pouvoir pour ça aussi. L'épave du Barcone est aujourd'hui présentée, exposée à la Biennale de Venise. C'est un symbole, un monument de mémoire.
Oui, mais il faut faire plus que ça. Il faut le raconter. Il n'est pas raconté maintenant. Je suis contente qu'il est là. Les gens le voient, mais c'est pas seulement un objet d'art. Hein. C'est un objet qui a une histoire qu'il faut raconter pour ne pas oublier ce qui s'est passé.
C'est ce que vous faites notamment dans ce livre « Naufragés sans visage », donner un nom aux victimes de la Méditerranée. C'est publié par Albin Michel. Je conseille à tous les gens que ça intéresse de se plonger dans ce livre où vous racontez aussi techniquement quels défis et quels enjeux tout cela porte. Merci beaucoup Christina Cattaneo, merci d'être passée nous voir à Europe 1. Un dernier petit voyage avant de refermer ces carnets, c'est un voyage en Autistan. On va retrouver Joseph Chovanec qui attend notre appel à l'autre bout du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Chaque dimanche, de 13h à 14h sur Europe 1, on prend la route, on observe, on écoute la vie des autres, mais pas de carnet du monde sans voyage en Autistan. Et c'est avec vous, Sophie Larmoyer et Joseph Chovanec.
C'est le grand voyageur de l'équipe, voyageur, philosophe et autiste Asperger. Joseph est en vadrouille, évidemment, on est en liaison depuis la Nouvelle-Calédonie avec lui. Bonjour Joseph.
Talofa, happy welay, c'est en langue djehu. Bonjour Sophie, comment ça va?
Ça va très bien, merci. Alors vous êtes de retour de l'île de Lifou, elle est entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. C'est un lieu qui vous a marqué, racontez-nous pourquoi.
Eh oui, évidemment, c'est une île paisible, un rythme de vie entre celui de la tortue et celui du frangipanier. Hein. La seule actualité sur l'île de Lifou, c'est le lever du soleil, puis son coucher. Un cadre autistique idéal. Ouais. Je pensais m'y fondre inaperçu. En fait, non. Mon séjour ne s'est pas du tout passé comme prévu. Dès l'arrivée sur le tout petit aérodrome de l'île, surprise, tout le monde m'avait reconnu. Au début, je croyais à un hasard. Sauf que quasiment partout, les gens m'appelaient par mon nom, certains tout simplement, et l'autiste. Hein. Me voilà mystérieusement une célébrité sur l'île de Lifou.
Des auditeurs de Carnet du Monde sur Europe 1 peut-être.
Peut-être, mais il se pourrait que la cause en soit un peu différente. Ouais. C'est un habitant du coin, sculpteur de son état, qui m'a expliqué les choses. J'ai visité son atelier. J'étais curieux. C'est une case assez simple, mais dans un cadre paradisiaque près de l'océan. À mon arrivée, il a à peine levé la tête et il m'a débité. « Ah, vous êtes Joseph, vous avez donné une conférence aujourd'hui de 14h à 16h au Faré Régional. » Et moi, waouh. Et d'ajouter « Tout se sait ici. » Une maman aurait averti un cousin d'un ami, d'un proche du sculpteur, ou peut-être l'inverse, je ne sais plus, me décrivant physiquement avec suffisamment de précision pour que le sculpteur m'identifie aussitôt alors qu'il ne m'avait jamais vu. Alors, pire encore, une dame âgée m'a révélé que tout le clan de la grande chefferie de Lecy se souvenait parfaitement que j'étais déjà venu sur l'île de Lifou il y a 3 ans.
Wow.
Mes heures. Et moi qui pensais que ma visite avait été furtive.
Ouais.
Lourde erreur, tout le monde se semblait se souvenir du passage d'un étranger blanc filiforme à lunettes. Du moins les habitants kanak locaux, pas tellement les blancs, hein, dont la mémoire semble un peu plus fragile. Hein. Un ami calédonien, Patrick, m'a expliqué que les kanaks avaient le meilleur système de renseignement au monde. L'information circule parfaitement dans les tribus et on la mémorise sur des générations.
Ouais, c'est le bouche à oreille, le fameux bouche à oreille et la mémoire orale.
Eh oui, qui tient parfois sur des générations. J'en ai eu un exemple saisissant aujourd'hui même. Dans quelques jours, je dois me rendre dans le nord de l'île principale de la Nouvelle-Calédonie, en plein territoire kanak de droit coutumier. Or, quand on entre sur un territoire coutumier, il est impératif de demander la permission au chef de la tribu locale, ce que l'on appelle faire la coutume. Cette cérémonie hautement codifiée et très impressionnante exige que l'étranger apporte des cadeaux. Simplement, mon ami calédonien Patrick, qui n'est pas kanak, ne prévoit pas de cadeaux pour notre voyage dans le nord, en plein territoire coutumier. Ouais. Il m'a dit, il y a quelques années, tu y es déjà allé, et le sénateur coutumier de Ponérirouen Monéo t'a donné le droit de passage et de séjour. Alors, le sénateur en question est décédé l'an dernier, mais ses enfants, qui n'étaient pas présents à la cérémonie, savent qu'un jour, leur père a donné le droit de passage et de séjour perpétuel à deux blancs, nommés Patrick et Joseph, ainsi qu'à leurs descendants. Alors, très hypothétique dans mon cas.
En fait, vous verrez dans quelques jour si votre ami Patrick a raison et si vous êtes le bienvenu ou pas.
Oui, ça sera un test de vérité et de la fiabilité de cette mémoire kanak qui m'impressionnera toujours. Bon, Sophie, je vous avoue, peut-être que j'apporterai quand même en cachette un bout de tissu, un billet de banque pour faire la coutume au cas où.
Ouais, je reconnais bien là votre côté prévoyant, vous n'aimez pas les surprises. Merci beaucoup, Joseph. Vous étiez en liaison Skype avec nous depuis la Nouvelle-Calédonie. On vous souhaite un très bon séjour sur le Gros Caillou au dimanche prochain.
Edrahe, à très bientôt.
C'est la fin des carnets en attendant de nouvelles aventures dimanche prochain. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. La réalisation de cette émission est signée Sophie Mallier. Florence Gimalac m'a aidé à la préparer. Merci à elle. Et Nico Caro m'a rejoint.
Oui.
Nicolas, je vous passe le relais. Quel est le programme de votre émission La Voix est libre?
Je reçois l'auteur belge Thomas Gunzig, que j'adore, et nous visiterons la bibliothèque, attention, de Michel Bouquet, le grand comédien.
Classe absolue, donc vous l'avez longuement rencontré, mais quelle chance. Moi je vous dis à dimanche prochain, d'ici là, portez-vous bien. Europe 1.